Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence en ce mercredi 14 septembre. Et qui dit mercredi dit reportage. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Aveyron, plus précisément près de Monteil, au sein de la communauté Anawim. Implantée depuis 2002, elles vivent une vie de prière liturgique et personnelle, une vie fraternelle intense et une vie de travail dans le respect de la création. Et la première étape de notre reportage nous emmène dans la chapelle du monastère où nous retrouvons l'une des deux sœurs, sœur Marie.
Donc on est dans la chapelle. Cette chapelle qui n'était pas une chapelle, c'était ce qu'on appelle le paillet, c'est-à-dire l'endroit où on mettait le foin et la paille autrefois. Et donc ici, il y avait une grande porte en tôle qu'on ouvrait et en dessous, on mettait la remorque avec le tracteur et on lançait le foin ou la paille dessus. Donc nous, nous en avons fait une chapelle hein, parce que c'était le bâtiment central de ce hameau. Et pour nous, c'est vraiment le symbole de la présence du Seigneur au centre de notre vie, au centre de notre cœur. Et il fallait qu'il y ait un bâtiment, on voulait qu'il y ait un bâtiment au milieu qui puisse devenir une chapelle. Donc ça, c'était vraiment l'idéal. Il n'y avait seulement qu'à relever ses manches, ce qu'on a fait avec aussi beaucoup d'amis et puis un médecin de Villefranche qui s'est enthousiasmé pour ce projet de faire une église, en fait. Il nous a dit, faites-moi un dessin. Donc on a fait le dessin des trois ouvertures comme dans les abbayes cisterciennes. On voulait que ce soit simple, que ce soit sobre et en même temps que ce soit beau. Nous, tout notre hameau est beau. Et beau, c'est très important, la beauté, c'est vraiment le reflet de la beauté incréée de Dieu. Il fallait que ce soit beau pour que ça parle de Dieu, pour que ça aide ceux qui n'ont pas la foi finalement à entrer dans ce climat de beauté et peut-être à découvrir à travers cette beauté eh bien, celui qui en est la source. Donc la chapelle, ben, y a rien. Il y a du bois, il y a de la pierre. On a voulu faire un plafond en bois, c'est du peuplier. C'est un ami qui n'est pas du tout du métier qu'il a fait. Donc c'est aussi une chapelle miraculeuse. C'est extraordinaire ce qui s'est passé ici. Un médecin qui vous fait des ouvertures comme ça, qui ferme, qui enlève la porte en tôle, qui fait une magnifique alvéole en nous disant « vous trouverez bien de quoi faire ». Donc c'est le lieu de la Vierge Marie. Cette petite alvéole, c'est elle qui est comme cachée finalement, en même temps on la voit, mais cachée dans les murs de la chapelle. C'est vraiment l'humble servante. Vraiment l'humble servante du Seigneur. Et puis là, on a voulu aussi que la présence réelle eh bien, soit aussi cachée. Ça rejoint notre charisme, dont je parlerai tout à l'heure. Cachée dans un petit abri, finalement, recouvert par une porte en tôle qui est comme une porte de four à pain. Et donc pour nous, c'était un magnifique symbole de que ce tabernacle soit tout simple, avec simplement cette porte de four. Voilà, pour nous dire aussi que eh bien là, il y a un feu brûlant qui doit brûler dans notre cœur, sinon notre vie n'a aucun sens, voilà, tout simplement. Et donc, il y a la présence réelle qui nous a été accordée par notre évêque quand nous sommes arrivés, et le Seigneur est toujours là.
Vous êtes arrivé quand ?
On est arrivé le 9 avril 2005, sous la neige, avec une douzaine de chèvres dans le camion. Voilà.
Vous êtes parti de ça, de 12 chèvres en 2005.
Voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, on était trois. On était trois sœurs à ce moment-là. Non, voilà. On est arrivé dans ce hameau à l'abandon quasiment depuis une trentaine d'années, je crois. Et c'était apocalyptique. Il n'y avait ni porte ni fenêtre. Il y avait tous les plafonds crevés, les planchers crevés, les toits en mauvais état. L'eau n'arrivait pas du tout partout. Enfin bon. Et voilà, et nous, pour nous, c'était une évidence que c'était là que le Seigneur nous attendait, dans cette laideur à transformer pour en faire de la beauté. Et je me dis, dans le monde d'aujourd'hui, où on cultive la laideur, on cultive le non-sens, eh bien, c'était comme un appel à faire un lieu qui a du sens, qui avait du sens pour nous, qui pouvait en avoir pour d'autres, et en tout cas, qui interpellait la question du sens de l'existence, et un lieu qui soit beau, pour être un reflet de cette présence qui nous habite, qui habite toute la création. Voilà.
Vous y passez beaucoup de temps dans cette chapelle ?
On voudrait en passer plus. On y passe le temps qu'on peut, c'est-à-dire que le matin, on a un office de l'aude, on a un temps d'adoration, on a un petit office de tierce, donc le matin, on est là une heure et demie. Le midi, on a un office entre nous parce que les horaires, ce n'est pas toujours facile pour nous le midi. Le soir, on a l'office de vêpres, l'adoration et puis l'office de compli ou de vigile. Voilà, donc ça fait quelques heures, mais on peut revenir. évidemment à la chapelle, et on aimerait y passer plus de temps. Mais bon, le Seigneur nous appelle aussi ailleurs.
Au travail.
Au travail, à l'accueil.
Donc là, ma sœur, on est en train de descendre des marches en pierre et on arrive dans un lieu... Décrivez-nous les lieux.
Alors ici, c'est le cloître, c'est-à-dire c'est l'espace réservé à la communauté, même si c'est une mini-communauté, ça fait rien. C'est important. Dans un monastère, il y a toujours un cloître. Hein. Cloître, c'est-à-dire clôture, c'est-à-dire espace protégé, espace réservé. Et le cloître, c'est plein de symboles. En fait, le cloître, ça rappelle le jardin d'Éden, hein, ce lieu originel, ce lieu de joie, de bonheur, et ce lieu aussi où le Seigneur nous fait confiance pour continuer son œuvre. Donc c'est toujours ce lieu de rencontre avec Dieu, parce que dans le jardin d'Éden, Adam parlait avec Dieu, hein, c'est bien dit ça. Et donc c'est à la chapelle on parle avec Dieu, mais c'est aussi en fait le cloître étant juste avant la chapelle, eh bien on rentre là pour se préparer à rentrer dans la chapelle. C'est déjà un lieu de rencontre, c'est un lieu de préparation à l'intimité avec Dieu. En même temps, on a voulu y installer une fontaine comme dans le jardin d'Éden. Hein, cette fontaine avec les quatre fleuves, donc il y a quatre robinets. C'est aussi ce fameux jardin scellé dont parle le Cantique des Cantiques. Dans une communauté monastique, c'est une communauté d'épouses du Christ. Et pour nous, le Cantique des Cantiques nous parle évidemment de cette communion intime entre le bien-aimé et sa bien-aimée. Et ça, c'est le jardin scellé, c'est le jardin dans lequel seul le bien-aimé descend. Vous voyez, on arrive de la chapelle, on descend dans le cloître, on descend dans le jardin, on descend à la source et on descend dans ce lieu où le Cantique dit que le bien-aimé vient cueillir les fruits d'amour finalement de sa bien-aimée. Ça a plein de symbolique. Donc ce lieu est vraiment très important pour nous. Comme la chapelle, c'est vraiment, ça dit l'essence même de notre vie, qui est une vie d'amour avec le Seigneur. On essaye. On veut que tout soit beau, que ça dise la gloire de Dieu. Hein. Les cieux racontent la gloire de Dieu, hein, dit le psaume, mais il n'y a pas que les cieux, toute la création. Quand le Seigneur dit « Tout est à moi, ils sont à moi, ces êtres vivants », donc ils doivent parler de lui. Donc la création doit parler de lui, la végétation doit parler de lui, et tout parle de lui. Alors on a les oiseaux qui sont venus faire des nids dans la vigne vierge, c'est vraiment le jardin d'Éden, hein. Vraiment le jardin d'Éden. On a le petit chat qui est là toujours lové dans la lavande. On est vraiment dans ce lieu où toute la création est rassemblée finalement et parle de Dieu par son existence même, par sa vie, par sa joie d'être. On peut partir par là, je vais vous ouvrir, le portail n'est pas encore complètement fermé.
Mais c'est un lieu qui est gardé aussi, hein. On a vu quatre chiens en arrivant. Hein.
Trois chiens. C'est un lieu qui est gardé, oui, il est gardé, mais ce n'était pas le but finalement. C'est le Seigneur et ses anges qui gardent le lieu. Mais comme on a eu un petit souci avec une personne un petit peu dérangée, on va dire, pour dire les choses modestement, donc on a dû fermer, on a dû prendre un chien de... Bah, qui nous protège, mais pas méchant du tout. C'est vraiment la crème des crèmes. Par contre, il est impressionnant. Et une personne qu'il ne connaît pas n'a quand même pas intérêt, finalement, à montrer son nez. Voilà. Et puis, bon, le border est là, mais bah, parce qu'il ne sert à rien au niveau de la chevrerie, malheureusement. Cette présence des animaux, elle est très importante pour nous. Je dis parfois, nous vivons au sixième jour. Au sixième jour de la création. C'est-à-dire ce jour où Dieu crée les animaux et il crée l'homme. Alors, différemment, évidemment. Mais nous sommes créés en même temps. Donc, nous vivons avec eux. Nous vivons avec les chiens, avec les chats et avec les chèvres. Dans un compagnonnage. On attend quelque chose de chacun et ils attendent quelque chose de nous. Ils attendent les caresses, ils attendent l'affection. Et puis, je vois par exemple Nets, notre border, elle attend qu'on lui donne du travail, même si ce n'est pas le faire. Hein. Et donc, c'est très important. Et donc, il y a une espèce de confiance mutuelle qui s'établit avec nos animaux à poil et ça donne du bonheur à tout le monde. C'est très simple en fait. C'est très simple. Voilà. On va monter donc à la chèvrerie. Tu vas rester là, Annette, hein, parce que tu vas beaucoup aboyer après. Après, donc là-haut, je ne les ai pas sortis ce matin. Les chèvres, parce que c'était très humide, elles sont très sensibles. Il y en a une qui a actuellement un abcès profond du poumon, donc j'ai pas envie qu'elle souffre de l'humidité. Elles sortiront demain quand il fera beau. Voilà.
Donc là, on est en train de remonter un petit peu sur une route goudronnée et caillouteuse. Et là, on part à la chèvrerie. Les chèvres, ça fait beaucoup de partie de votre activité.
C'est notre gagne-pain, puisqu'on fait du fromage et qu'on le vend. Hein. Et puis, c'est aussi ce que je considère un peu comme une mission spirituelle que le Seigneur nous a confiée. C'est de prendre soin de cette toute petite part hein, de la création. C'est rien du tout. Hein. On a 60 au total, 60 bêtes. Mais le Seigneur nous les a confiées. Et s'il nous les a confiées, c'est pour qu'on fasse aussi du beau avec elles, du beau et du bon. Donc c'est très important de bien s'en occuper. Moi, je connais chacune. Ah ben, je les connais toutes, bien sûr. Elles sont toutes différentes. Elles ont toutes un caractère différent. Elles ont toutes une morphologie différente. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
Et pourquoi ce choix des chèvres alors quand vous êtes arrivée ?
C'est pas vraiment un choix en fait. Au départ, j'ouvre là. En fait, la communauté a démarré en 2003 dans le sud d'Aveyron. Et 2003, c'est l'année d'une grosse canicule. Par contre, on a démarré, on était près des monts de la Cône, là, à 900 mètres. Et il n'y avait pas de canicule à cet endroit-là. Et un jour, je reçois un coup de téléphone de quelqu'un qui me dit « Mes chèvres sont en train de mourir de faim. Est-ce que vous voulez venir les chercher ?» Non, mais 25 chèvres. J'ai dit « Mais non, monsieur, c'est pas possible. 25 chèvres ?» Puis nous, on ne savait pas s'occuper des chèvres, on ne savait même pas que c'était qu'une chèvre, enfin bref. J'ai dit non, c'est pas possible. Cet homme pleurait au téléphone. Alors j'ai dit à Sœur Claire, qui était ma première sœur, j'ai dit écoute, on y va, on va au moins le consoler. Donc on part, on a fait 80 km. Oh, c'était terrifiant, c'était comme cette année en fait. On se serait cru dans le désert, il n'y avait plus un brin d'herbe. Alors j'ai dit écoutez, 25, c'est pas possible.
Ça fait beaucoup 25, hein.
On en prend 4. Alors on a pris une mère avec ses deux petits, puis une autre. Et on est rentré chez nous avec 4 chèvres dans la voiture. Ça a démarré comme ça. Comme ça. Bon, après, on a fait nos expériences. On n'y connaissait strictement rien. On a écouté tout ce que les gens nous disaient. Se laisser imprégner du savoir de l'expérience des autres. Non, on ne savait rien faire parce qu'on était toutes citadines. Moi, je suis parisienne en plus, vous vous rendez compte. Donc, non. On a tout appris. Ils nous ont tout appris. Merveilleusement appris. Et c'est comme ça qu'on a monté ce troupeau et que... Bon, aujourd'hui, on est reconnu, si vous voulez, quand même, au niveau de la qualité de notre fromage. Ils sont là. Et les oiseaux, regardez les oiseaux. Regardez les oiseaux. Voilà. Oui, on est là. Voilà. Regardez.
Elles nous signalent qu'elles sont là. Hein.
Oui. Ben, elles vous disent bonjour.
Ben oui.
Voilà. Il y a 42 adultes. Et puis il y a 16 chevrettes et le petit bouc qui doit saillir les chevrettes. Voilà. Et on a 2 boucs dans un pré. Je les mets la semaine prochaine avec les adultes pour les saillies. Voilà. Et on a un patou au milieu qui garde le troupeau. Qui...
Il le protège des éventuelles attaques, c'est ça ?
Alors, il y a maintenant 3 ans, je crois, il y a un voisin là qui a eu un souci avec un loup. Donc, il y a eu 2 brebis qui ont été éventrées, je crois. Et puis, l'année dernière, on m'avait parlé aussi d'un loup qui avait attaqué des brebis à une quinzaine de kilomètres d'ici. Et les gens disent, les loups avancent, les loups sont là, de manière pour le moment singulière, hein, c'est pas en meute. Hein. Mais bon, ça peut arriver. Donc on s'est dit, pour être tranquille, on va prendre un patou, parce qu'on a quand même 35 hectares qu'on peut absolument pas surveiller. Voilà, pour prendre vraiment soin de notre troupeau, on s'est dit, il faut les protéger. Et on a pris un petit patou. Et maintenant, il a 2 ans, et il vit 24 heures sur 24 avec les chèvres. Et puis, je lui ai fait une demande particulière. C'est parce que, à cause de mon accident de tracteur, j'ai très mal au dos. Et parfois, elles sont très capricieuses, n'est-ce pas ? Ce sont des chèvres. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas avancer, c'est qu'elles ne veulent pas rentrer le soir. Donc, j'ai demandé à mon chien, qui s'appelle Rescue, hein, il vient là pour protéger le troupeau, Rescue, de ramener les chèvres le soir. Eh bien, à 5 heures, les chèvres sont là. Et là, actuellement, on est en fin de campagne, donc on est en monotraite. Donc elles rentrent uniquement pour manger et pour dormir. C'est un troupeau qu'on va dire hétérogène, parce qu'il y a 2 races mélangées, ce qu'on appelle les sanennes, c'est-à-dire celles qui sont toutes blanches, et les alpines, celles qui sont toutes marron, hein, pour faire simple. Et donc, elles sont croisées. Elles sont croisées parce qu'on a eu des boucs tantôt alpins, tantôt sanènes. Là, on a exactement un de chaque. Donc ça fait des couleurs différentes. Moi aussi, j'aime bien qu'elles aient des couleurs différentes. Mais après, on essaye quand même de les choisir pour le renouvellement, là, de prendre des filles des meilleures laitières. On essaye. Mais bon, on n'arrive pas toujours. Après, il faut prendre aussi des chèvres qui sont en bonne santé, qui sont toniques. Hein. Donc voilà, elles sont tranquilles. Regardez celle-là, elle est carrément allongée. Et c'est l'heure du repos, là. C'est l'heure, vraiment l'heure de la sieste. Hein. Donc elles sont tranquilles, elles sont très affectueuses. C'est, en fait, c'est un animal au plan thérapeutique très intéressant. Je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire au niveau de la caprithérapie, parce que c'est un animal affectueux. C'est un peu comme un chien, une chèvre, c'est un peu comme un chien. Et en même temps, elle vous révèle les traits de votre caractère. Moi, quand je suis énervée, elles sont énervées. Elles sont énervées. C'est-à-dire, quand si j'ai un coup de barre, eh ben, je vais sentir un coup de mou dans le troupeau. C'est très intéressant. Parfois, elles sont tellement énervante. Hein. Ça n'en fait qu'à sa tête par certains moments, et donc c'est énervant, et moi ça m'est arrivé parfois peut-être d'avoir des actes un peu violents envers elle. Et là je me dis non, ça va pas. Et donc elle révèle une violence qui est en moi. Hein. Et donc ben là j'ai à convertir cette violence.
Donc c'est des animaux intelligents, on peut le dire.
Ah, c'est des animaux très intelligents. Elles savent ouvrir les portes, elles savent faire sauter les loquets. Il y en avait même une qui éteignait la lumière quand j'arrivais. Elle appuyait sur le bouton, et j'ai failli appeler l'électricien en lui disant il y a un faux contact. Et je me suis rendu compte que c'était elle qui éteignait la lumière. Donc c'est un animal très intelligent, très capricieux et qui aime la présence humaine, qui a besoin de la présence humaine. Pour les misbahs, elles n'ont pas leur petit tant que je ne suis pas là. Donc on peut dormir la nuit.
Oui.
Très bien. Très bien. Le troupeau trouve son équilibre dans une certaine hiérarchie, eh bien, qui s'appuie sur un rapport de force. En fait, les dominantes, c'est très simple, c'est les deux plus grosses chèvres.
Oui.
C'est celles qui tapent le plus fort. C'est celles qui prennent leur part, c'est-à-dire trois parts quand je distribue le grain, c'est ça. Et elles sont toujours un petit peu en train de vérifier qui est devant, qui est derrière. Elles ont leur hiérarchie qu'il faut respecter. Hein. Voilà, c'est l'équilibre du troupeau qui est en jeu, en fait. Hein. Voilà.
La traite, elle n'a pas lieu ici, j'imagine, elle est dans une autre salle.
Non, de l'autre côté, bien de l'autre côté. Ici, c'est vraiment la chèvrerie et elles vont à la traite par un portillon.
Et vous vous êtes formé alors, j'imagine, aux techniques de traite et vous êtes équipé.
Oh. Ah oui, ben, maintenant on a une machine. Hein. J'ai été opéré 3 fois de la main droite, c'est terminé, la traite à la main. Puis 42, ça fait quand même, c'est un peu petit, hein. C'est un petit troupeau. Mais quand il faut le traire à la main, c'est long et puis voilà, c'est très pratique la machine à traire. Hein.
Et c'est une traite par jour ?
Deux traites par jour. Actuellement une, puisqu'on est en fin de saison et qu'on a décidé que ça suffisait. On n'est pas dans le business et on veut avoir notre temps de prière le soir. C'est vraiment source d'action de grâce, parce que se dire, ben voilà, tu vois, c'est championne, elle. Championne, eh bien, tu me donnes ton lait et tu me donnes du pain, quelque part. Hein. Et donc, il y a ce rapport, comme quand j'avais les abeilles, c'était pareil, ce rapport de remerciement. Hein, de remerciements. Donc c'est pas des machines, c'est pas des tanks à lait à quatre pattes, c'est pas du tout ça. Ce sont des êtres vivants que le Seigneur nous a confiés et il nous a permis et finalement de trouver notre nourriture.
Elles se battent un peu là.
Oui, elles sont toujours en train de se battre. Ça c'est Mammouth, je l'ai appelée Mammouth tellement elle est énorme. Et ben voilà, elle tape. Voilà, bon, c'est la vie de la chèvrerie. Et donc c'est un lieu de bienveillance, de bienfaisance pour tout le monde, et particulièrement ben, pour les personnes qui affectivement sont blessées, sont perturbées. Je crois vraiment.
Les chèvres aussi, elles sont affectueuses. On est en train de voir, il y en a une qui est en train de vous manger.
De me sucer le doigt, de me lécher. Oui, elles ont besoin de contact, en fait, et contact avec l'homme, et on leur rend bien quand on les caresse. Elles aiment qu'on les caresse, là, tout simplement. Voilà, regardez, parfois elles ferment les yeux de bonheur, voilà. C'est... Ouais. Alors celles-là, ce sont les plus âgées, en fait. Mmh. Hein? Binocle, parce que quand elle est née, elle avait 2 grands ronds autour des yeux. Binocle, c'est le chef du troupeau. Elle s'est déclarée chef du troupeau. Elle a mis Big Boss à terre. Et elle a dit, maintenant, je prends ta place. Alors voilà, c'est ça, ça fonctionne. C'est très étrange, un troupeau de chèvres. Hein. Elles ont leurs propres lois et ça se respecte. Donc avant, elle montait la première au quai de traite. Maintenant, elle monte la deuxième. Elle est devenue l'assistante.
Et elle a pris la place.
Mais elles vont bien. Regardez, elles ont un joli poil luisant. Ça, c'est le signe que tout va bien. Voilà. Voilà. Et puis, on voit pas toutes les côtes non plus. Non, elles vont bien.
Et c'est du foin de toute façon qu'elle mange.
Bah, du foin, oui, c'est notre foin à nous. Et puis il faut bien qu'elle mange des céréales. Hein. Pour garder une bonne forme, hein, il faut qu'elle fasse un peu de graisse, un peu de muscle. Donc il faut des protéines. Et elles ont des céréales en plus. Si nous, on veut qu'elles aient aussi du lait, il faut aussi qu'elles aient ce qu'il faut au niveau alimentation. Sinon, on aura rien. Voilà. Après, c'est pas du tout intensif. Hein, c'est pas poussé. Elles ont des petites rations. Voilà, sinon, vous voyez, il faudrait leur donner à manger pratiquement en continu ou plusieurs fois dans la journée. Mais nous, elles partent, elles sortent. Donc, elles mangent matin et soir et tout va bien.
Il y a une sacrée odeur, ma sœur, là. On est où? Dites-nous.
Alors, là, on est dans la salle de traite, donc qui est contiguë à la chèvrerie et à ce qu'on appelle l'aire d'attente, c'est-à-dire cet espace-là où elles vont venir se parquer pour monter sur le quai de traite. Et alors, elles montent pratiquement tout le temps dans le même ordre. Forcément, je vous ai dit, hein, l'équilibre du troupeau est dans la hiérarchie. Et donc, le chef va monter, l'assistante va monter en deuxième, hein, et puis ensuite les autres, les plus grosses, puis les plus faibles en dernier. Toujours.
Et elles se placent bien? Est-ce que toutes seules, elles se placent?
Elles se placent toutes seules, oui, elles sont habituées. Après, de temps en temps, c'est fantaisie, les chèvres. Hein, de temps en temps, elles font les imbéciles, et donc il faut les remettre à leur place. Mais elles font souvent ça quand il y a quelqu'un qui est là et qu'elles ne connaissent pas. Quand je suis toute seule à faire la traite, tout est calme. Tout est calme, tout est dans l'ordre. Et s'il y a quelqu'un qu'elles ne connaissent pas, elles vont se faire remarquer. C'est comme des enfants. Hein, exactement ça. Elles vont jouer en se disant, tiens, tu ne m'as pas vu, tu ne me connais pas, ben, tu vas voir. Et elles reculent et elles mangent à la place d'une autre et elles mettent la tête en même temps qu'une autre. Alors,
ou alors, vaut mieux que vous soyez seule, en fait. Hein.
C'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Après, c'est très agréable de transmettre ce qu'on sait faire et de donner le goût. J'ai eu une jeune 13 ans, Jeanne, qui est venue passer une semaine avec moi, puis qui est revenue après 2 jours. Ça a été merveilleux. Je crois qu'elle a découvert quelque chose, peut-être d'une vocation future, je ne vais pas parler de sœur, hein, mais d'un métier, d'une vie avec les animaux en tout cas. Et donc c'est une joie de transmettre une passion de la relation avec l'animal en tout cas. Voilà, donc elles ont à manger, donc il n'y a pas de raison qu'elles ne montent pas.
Vous les attirez par la nourriture, c'est ça?
Absolument. Tous les animaux, c'est comme ça, je crois.
Les humains aussi, certaines
les
fois
humains,
aussi.
Les humains, ça marche aussi souvent comme ça. Donc voilà, elles montent et puis c'est très simple.
Et vous branchez la machine magique et
ouais, c'est ça. Oui, tout à fait.
Et la traite, elle dure combien de temps?
Alors, en fait, il ne faut pas que ça dure très longtemps par chèvre, hein, parce que ça, l'aspiration, elle est quand même assez puissante et il ne faut pas irriter la mamelle. Donc une chèvre, ça dure 1 minute, 2 minutes. Alors... 40 et quelques, il faut compter 3 quarts d'heure à peu près. Donc c'est assez rapide. Assez rapide. Ce qui est un peu long, c'est le fait que nous n'ayons aucune autre mécanisation. Il y a beaucoup de manutention. Et puis il y a le soin. Moi, je prends énormément de temps pour observer, soigner le comportement. Tiens, il y en a une qui est dans le coin. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? La température, les poumons, diarrhée, pas diarrhée, qu'est-ce qui se passe pour les prendre soin de chacune. Voilà, ça prend aussi beaucoup de temps.
Une fois que le lait a été collecté, ça se passe dans la salle d'à côté, il part où?
Dans le lactoduc là, qui traverse la pièce, là, sous le plafond, et il arrive directement dans le tank qui est dans l'atelier de fabrication de la fromagerie qui est aussi contigu.
Oui, vous avez les mêmes règles d'hygiène que n'importe quel...
Danone ou Lactalis.
Ah oui, exactement les mêmes.
Exactement les mêmes, parce que ce sont des normes européennes. Donc les normes européennes, ce sont les mêmes pour tous les ateliers qui demandent l'agrément européen. Hein. Donc c'est le top des normes. Et pour nous, bah, il y a une petite contrainte, mais c'est aussi une sécurité. Comme ça, on sait qu'on travaille bien. Et c'est important. Et c'est un témoignage. Des sœurs n'ont pas le droit de mal travailler. C'est pas possible. Ce serait pour nous, ce serait un contre-témoignage. Et puis c'est une joie de bien travailler. Enfin, voilà.
Il y a le plaisir, vous prenez du plaisir aussi.
Beaucoup. Bah, sinon, enfin, je veux dire, c'est un esclavage. Hein. C'est pour ça qu'on fait aussi qu'on passe en monotraite à un certain moment, pour pas être esclave de notre travail, parce que parfois ça peut être lourd. Donc, continuer à trouver beaucoup de joie dans ce qu'on fait. Alors, si vous regardez, il y en a partout de l'homéopathie, des plantes, des trucs. Hein.
Oui, c'est vous qui les soignez.
Ça, il y en a partout. Oui, c'est moi qui les soigne. Oui, j'ai fait des formations et je fais ce que je peux. Voilà, je commence à avoir quelques petites notions pour pas mal de pathologies. Toxémie de gestation, boiterie, problèmes pulmonaires, diarrhée des chevreaux, arthrite, choc toxinique, etc. Tout ça, et alors là, tout ça, c'est l'homéopathie, l'aromathérapie, de la phytothérapie.
Oui, c'est 100% naturel.
Oui, alors de temps en temps, quand il faut passer aux antibiotiques. Hein. La chèvre qui a un abcès du poumon, elle avait 40 et 5 dixièmes, j'étais obligée de passer aux antibiotiques. Mais j'ai rajouté aussi d'autres choses, en fait. Hein. Voilà. Non, j'utilise très 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 peu de médicaments conventionnels.
Le fait d'avoir un élevage de chèvres et baies, ça oblige à rester toute l'année sur place.
Ah oui, mais bien sûr, parce que il faut les alimenter tous les jours. Alors après, quand même, on a plein d'amis, hein, et il y en a qui viennent une semaine ou des membres de la famille pour nous remplacer à la période du tarissement où c'est plus simple, hein, c'est très simple.
La période du tarissement, c'est quoi ?
Le tarissement, c'est le moment où elles ont de moins en moins de lait, hein, c'est normal, parce que c'est calqué en fait sur le rythme des chevreaux. Hein. Y a un moment où il n'y a plus besoin de faire du lait. Et donc nous, on va aider le tarissement de façon à ce qu'à un moment donné, elle s'arrête vraiment de faire du lait pour que nous, on puisse souffler aussi. Hein. Et nous, il dure 3 mois et demi le tarissement. On a choisi que ce soit un long tarissement. Elles auraient pu faire du lait encore un peu plus, mais on a besoin de s'arrêter, on a besoin de souffler, on a besoin de prier. Ça va être bientôt. Bientôt. Après, des petits soucis de santé, donc il faut se donner le temps de prendre soin de soi quand on a aussi pris soin des autres. Hein, ça me semble important. Donc voilà, tarissement, c'est ça. C'est l'arrêt de la lactation. Donc la fromagerie, donc je vous disais que le lait arrivait directement. Vous voyez les tuyaux qui descendent là-bas au fond, donc ça tombe dans le tank. Alors là on voit pas grand chose, mais ça arrive dans le tank, donc c'est direct, ça arrive à 28-29 degrés, et donc Sorbénique va le refroidir à 20-21 degrés et hop, va démarrer le fromage. Ça dépend, d'abord il y a au moment du pic de lactation, c'est-à-dire c'est à partir des 30 jours après le début de la mise bas, là elle monte en lait, et là cette année on avait 110 litres de lait à ce moment-là, donc avec 110 litres de lait on fait presque 200 fromages, donc c'est beaucoup, donc on fait de la tome aussi, parce que 200 fromages par jour on ne va pas les vendre, hein. On n'a pas la clientèle pour ça.
Que vous vendez sur le marché de Villefranche-de-Rouergue, et il y a aussi un espace où on pourra y jeter un petit coup d'œil.
Il y a un magasin, puis on a d'autres lieux, hein. Il y a la fromagerie Xavier à Toulouse, il y a l'intermarché de la Fouillade, il y a un petit restaurant, il y a une épicerie locale, on a une boutique en ligne avec deux réseaux, un réseau sur Paris, un réseau sur Toulon. Voilà, il faut diversifier les lieux de commercialisation. Hein. Voilà. Au Moyen-Âge, on considérait que le potager était l'image du monastère. Un beau potager, ça voulait dire que les moines allaient bien, étaient fervents, que c'était un bon monastère. Donc c'est pour ça que je dis que c'est aussi un lieu symbolique, quelque part. Mais cette année, ça a été très très compliqué.
Avec la sécheresse. Hein.
J'ai arraché les pommes de terre, elles étaient plus petites que celles que j'avais plantées. Donc fini, terminé. Tout a souffert.
Et quand le soleil et la pluie sont de la partie, qu'est-ce que vous pouvez planter ? Qu'est-ce que vous plantez ?
L'année dernière, ça a été magnifique, 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 parce qu'il avait beaucoup plu. Il y avait de tout. Là, il y a les topinambours, c'est une jungle, hein, les topinambours. Sinon, il y avait les salades, il y avait les butternuts, les potimarrons, les poivrons, les aubergines, les courgettes, les haricots à rame, les tomates, qu'est-ce qu'il y avait ? Le céleri, les choux, les pommes de terre. Je crois que...
Vous avez tout et c'est pour votre consommation personnelle.
Ah oui, tout à fait. Et puis aussi pour avoir, quand on accueille, pour pouvoir préparer un peu les repas des personnes qu'on accueille quand on peut le faire.
Parce que la communauté, c'est aussi ça. Il y a le côté chèvrerie, il y a le côté production de fromage, mais aussi accueil de tous.
Ah oui, mais c'est-à-dire que la vie monastique, elle repose sur des piliers. Le premier, c'est la prière. Hein, et aura et labora. Le deuxième, ça va être, on va dire plutôt l'Alexio Divina, le deuxième pilier. Le troisième, ça va être l'hospitalité et le travail. Voilà, ça fait qu'il y a quatre piliers dans la vie monastique. Hein. Donc c'est très important l'hospitalité. Saint Benoît dit, les hôtes ne manquent jamais au monastère. Parce que le monastère, c'est un lieu de passage où on s'arrête, où on se pose, on se repose en Dieu, où on peut repartir, duquel on peut repartir. Et il faut qu'il y ait du monde. Enfin, s'il y a du monde au monastère, c'est que non seulement il y a un besoin, mais que c'est vraiment une oasis. Ça dit quelque chose de ce que ça doit être.
Ma sœur, pour clôturer cette visite, on termine avec un lieu qui est important, c'est l'accueil.
Oui, c'est ce qu'on appelle l'hôtellerie, voilà, c'est un grand mot parce que chez nous, tout est petit, mais c'est très important. Je le disais tout à l'heure, le monastère, c'est pas fait que pour nous, quoi. Ça doit être un espace ouvert à tous ceux qui ont besoin de ce lieu de repos. Nous, on veut partager ce lieu, la beauté de ce lieu, la paix de ce lieu. On sent qu'on n'est pas chez nous quelque part, voyez. On dit toujours on est chez Dieu, et donc on n'est pas propriétaire, et donc ce lieu est à tout le monde.
C'est la fin de ce reportage, tout de suite une pause musicale, on écoute Unis comme des frères du groupe Open.
À l'ancien qui se tient penché sur le monde, à l'enfant insouciant perdu dans la ronde, à celui qui attend que vienne sa chance, au meilleur d'entre nous noyés d'indifférence, à tous ceux qui ont eu foi en l'avenir, même celui qui n'a plus d'espoir à saisir, à tous ceux qui ont tant perdu mais nous demandent, dites-nous comment faire pour avancer ensemble. Respire, tout le monde respire. Ici debout les pieds sur terre, unis comme des frères, parce qu'on a la vie, parce qu'on a des rêves, on chantera toute la nuit cette terre, on dansera toute la vie, j'espère, on restera unis comme des frères. À l'amour de ma vie, à tout ce que j'aime, à nos pleurs, nos sourires cachés en nous-mêmes, à celui dont la nuance est force et peut déplaire, à toi l'ami endormi sous le pain du cimetière, aux rebelles incompris, aux héros d'hier, de demain, d'aujourd'hui et à la terre entière, à tous ceux qui ont tant perdu mais nous demandent, dites-nous comment faire pour avancer ensemble. Respire, tout le monde respire. Ici debout les pieds sur terre, unis comme des frères, parce qu'on a la vie, parce qu'on a des rêves, on chantera toute la nuit cette terre, on dansera toute la nuit, j'espère, on restera unis comme des frères. La 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 la. Parce qu'on a des rêves, on chantera toute la nuit cette terre, on dansera toute la vie, j'espère, on restera unis comme des frères. Comme des frères, toute la vie, j'espère.
Présence sur le plateau du Larzac, 106.5.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
Pour la dernière partie de cette émission, je vous propose de réécouter un entretien avec Sœur Marie qui nous parle de sa spiritualité.
Bonjour ma sœur.
Bonjour Timothée.
On est Perdu en plein milieu de la campagne aveyronnaise, pour vous, c'est important d'être dans un lieu comme celui-ci?
Pas dans un lieu perdu, dans un lieu un peu isolé, hein, un petit peu à l'écart du monde, pour justement pouvoir prendre cette distance qui est nécessaire pour se connecter avec le Seigneur. Hein. Dans le monde, on est le nez dans le guidon, on est dans le bruit, on est dans ce stress permanent, cette pression permanente qui est là, qui fait partie du climat urbain. Hein. Donc c'est très important d'être à l'écart. Les monastères sont toujours à l'écart.
Ce recul par rapport à cette vie pleine d'agitation, c'est ce qui vous caractérise ?
C'est ce qui caractérise la vie monastique, je crois. Ce n'est pas nous en particulier. Les monastères sont des lieux, vous voyez bien les cisterciens qui se mettent toujours dans des combes, dans des vallées, parfois difficilement accessibles, pour être comme à l'écart pour Dieu, comme Jésus qui partait la nuit dans le désert pour prier. Hein. On a besoin pour prier d'un espace où il n'y ait pas ni d'agression, ni de présence extérieure aussi. Nous, on choisit des temps de présence extérieure, mais on a besoin d'un lieu qui dise que c'est un lieu aussi de solitude.
Vous faites partie de la communauté des sœurs Anawim.
Anawim, oui.
Anawim, ça vient d'où ?
Anawim, c'est un mot hébreu. On devrait même dire Anawim, hein, vraiment. Mais bon, on dit souvent Anawim. Anawim, c'est ce qu'on appelle les pauvres de Yahvé dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, c'est le petit reste d'Israël. Le petit reste qui a tout perdu, qui a perdu ses terres, qui a perdu son pays. Ils ont été déportés, ils ont perdu... Il n'y a plus de temple, il est détruit. Donc, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de prophètes. Et c'est une grande pauvreté spirituelle, finalement. Il y a une pauvreté économique qui est là... Mais il y a aussi une pauvreté spirituelle. On ne peut plus trouver le Seigneur dans le temple. Le Seigneur, c'est sa maison, c'est sa demeure, le temple. Il n'y a plus de temple. Alors, il est où, le Seigneur ? C'est très intéressant. Et les prophètes vont éduquer le peuple à une religion intérieure dans cette pauvreté, finalement, spirituelle. C'est-à-dire entrer dans une attitude de confiance en Dieu, d'abandon en Dieu, en se sachant béni de Dieu. C'est pas parce qu'on n'a plus rien, qu'on n'a plus de richesse, qu'on n'est pas béni de Dieu. Voyez ? Donc pour nous, c'est être Anawim, hein, c'est entrer dans cette pauvreté d'esprit qui est la première des béatitudes. C'est essayer d'entrer dans cette pauvreté d'esprit qui est porteuse de paix, qui est donneuse de force, qui est une sécurité. Quand on est pauvre, on est en sécurité. Enfin, ça paraît toujours très paradoxal. Et c'est quelque chose qu'on expérimente, qui ne s'explique pas, enfin, que j'explique pas, mais que nous vivons, en tout cas.
Et concrètement, parce que c'est difficile à imaginer, pauvre, donc en sécurité.
Mais oui, pauvre, c'est-à-dire que... Comment dire ? Actuellement, nous ne sommes plus que deux. Hein, malheureusement, et c'est une très grande souffrance, très grande souffrance. On aimerait tellement partager avec d'autres sœurs. Mais bon, le Seigneur nous a réduits au petit reste. On est le petit reste, vraiment, aujourd'hui, de notre communauté qui a été comme presque décimée très rapidement. Bon, c'est notre histoire, hein, elle est comme ça. Mais nous sommes dans une précarité par rapport au nombre de membres de la communauté, et en même temps, donc il y a une souffrance, mais en même temps il y a une grande paix, parce que il y a que le Seigneur qui peut nous donner un sens à ce que nous vivons, nous soutenir, nous protéger, et lui il sait. Il sait ce qui est bon pour nous. Lui, il sait ce qu'il va faire de nous, ce qu'il veut faire de nous. Et donc ça nous met en sécurité. Parce qu'on n'a pas à décider de nous-mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire ? Hein ? Je me dis, un chef d'entreprise doit faire des tas de plans, etc. Alors, nous, on a une petite entreprise aussi. La question n'est pas là. Mais on ne va pas faire des plans sur la comète. Mais par contre, on va être dans l'accueil, dans l'attente, dans l'écoute de ce que le Seigneur nous dit, veut de nous. Et il nous parle à travers les événements quotidiens. À travers les rencontres, à travers tout ce qu'on peut vivre. Vous voyez ?
Si je comprends bien votre réflexion, c'est Jésus qui a décidé que vous soyez que deux ici.
Eh bien, c'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'on se dit. Les événements ont fait que nos sœurs que nous aimions sont parties. C'était trop dur, vraiment. Retaper tout ce hameau, c'était trop dur. Monter une exploitation agricole alors qu'on n'était pas du tout du milieu, c'était très dur. Voilà, hein, c'est comme ça. Et moi, je pense que le Seigneur a un plan là-dessus. Ça nous oblige à ne pas compter sur nous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut compter que sur lui. Alors après, ça va être sur les frères qu'il nous envoie, hein, d'une manière ou d'une autre, qui sont des anges quelque part. Mais c'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous tient. Et ça, ça met, je ne sais pas comment vous expliquer ça, parce que c'est vraiment d'ordre spirituel, ça met dans une grande sécurité.
Si on se concentre un petit peu sur vous,
oui,
votre parcours.
Je ne sais pas s'il est très intéressant, mon parcours. Enfin, je ne suis pas d'une famille croyante, même au contraire, très, très, très athée, très, très anti. Et puis après, bon, il y a une conversion foudroyante, qui me projette dans le Seigneur, hein, et qui me brûle, littéralement. Et donc, j'ai tout donné au Seigneur. Et c'est dans le scoutisme, en fait, que j'ai rencontré le Seigneur. Et le jour de ma promesse scout, le Seigneur m'a dit « Suis-moi ». Donc, c'était très simple, très clair.
Vous êtes senti appelé ?
Ah, complètement. Complètement. Pas seulement à être cheftain plus tard, hein, mais à être à son service, à lui donner toute ma vie, toute ma personne, donc à rentrer dans la vie religieuse. C'était très simple pour moi. C'était une évidence. Il fallait juste que j'attende l'âge requis.
Ça a été accepté par votre famille ?
Non, c'est très... Non, jamais. Mes parents sont décédés aujourd'hui sans jamais avoir accepté. Ça a été très, très difficile pour eux, très douloureux. Et ça reste une douleur pour moi de les avoir fait tant souffrir, en fait. Oui.
Mm. Et vous vous sentiez appelé, donc vous n'avez pas hésité.
Mais vous savez, l'appel de Dieu, c'est comme une fusée à l'intérieur. Je ne sais pas vous expliquer. On est projeté, on est aspiré, et c'est plus fort que tout. C'est plus fort que des liens familiaux, malheureusement. Malheureusement, parce que ça fait beaucoup souffrir. Vous voyez, c'est ça dans ce sens-là que je veux dire malheureusement. Ça fait beaucoup souffrir quand la famille n'est pas en accord et ne comprend pas, ne peut absolument pas comprendre.
Ouais. Et votre vocation, c'était de tout de suite le travail.
Ah, mais c'est pas ma vocation le travail, c'est pas une vocation le travail. Parce que disons que c'est peut-être la vocation de l'homme, quelque part. Hein. Quand Dieu lui dit, ben voilà, j'ai fait un joli jardin pour toi, mais maintenant, à toi de continuer. Donc, quelque part, ça fait partie de l'identité humaine, de la nature humaine. Je ne sais pas si on peut parler de vocation, c'est inscrit en nous. Non, ma vocation, c'est l'intimité avec Dieu. C'est les épousailles avec le Christ. C'est ça, ma vocation.
C'est ça la base de tout, c'est ça le tronc de ce qui vous porte.
Complètement. Et quand saint Benoît dit, parce que j'étais bénédictine avant, hein, n'avoir rien de plus cher que le Christ, c'est ça. C'est le cœur de la règle de saint Benoît pour moi. C'est le cœur de ma vie, n'avoir rien de plus cher que le Christ.
C'est un apprentissage de chaque instant ou maintenant vous l'intégrez pleinement ?
Disons, je l'intègre comme une évidence d'ordre, on va dire, intellectuel. Hein, et après, au plan spirituel, c'est tous les jours à recommencer de faire le choix du Seigneur. Parce qu'on fait le choix dans ce feu de l'appel, l'expérience du Christ, de la rencontre avec lui. Mais après, il faut le ratifier tous les jours. Est-ce que là, maintenant, j'ai rien de plus cher que le Christ ? Ou est-ce que finalement, je me recherche quelque part, est-ce que je manque à l'amour à tel ou tel moment? Mais oui, bien sûr. Donc je n'ai pas toujours rien de plus cher que le Christ. Vous comprenez? Et ça, c'est ça le péché.
La contemplation, c'est quelque chose aussi qui est au cœur de ce que vous croyez. Vous croyez vraiment à la contemplation. C'est ça, pour vous définir, pour définir les sœurs Anna Wim, comment on pourrait les définir? Alors, ce qui leur tient à cœur vraiment?
Alors, plusieurs choses. La vie monastique, c'est une vie de contemplation. Ça ne veut pas dire qu'on passe son temps à la chapelle. C'est ce que croient les gens. Quand les gens disent « Ah, ce sont des contemplatifs ou des contemplatives », ça veut dire qu'elles sont les mains jointes dans la chapelle toute la journée. C'est complètement faux. Dans les monastères, on travaille énormément parce qu'il faut gagner sa vie. Hein, donc, on travaille énormément. Donc, le travail est important. Il fait partie des piliers de la vie monastique. Mais comment dire, la contemplation, c'est l'essence de la vie monastique en ce sens que c'est l'essence de la consécration, quelque part. J'ai du mal à comprendre qu'on parle de vie apostolique et de vie contemplative. À partir du moment où on est consacré au Seigneur, on cherche le Seigneur. On cherche. Hein, saint Benoît, il demande à ses postulants de rechercher le Seigneur. Et s'il ne recherche pas le Seigneur, à la porte. C'est très simple. Et c'est ça la contemplation, c'est-à-dire je vais chercher ton regard, hein, je cherche cette fameuse chant, je cherche le visage du Seigneur. Mais c'est ça. Et on contemple quand on retrouve le visage du Seigneur. Mais il n'est pas qu'à la chapelle, le visage du Seigneur. Il est dans la beauté de la création, il est dans la vie qui jaillit, il est dans les facéties des chèvres, des chats, des chiens, il est dans la rencontre avec les frères. Je veux dire que pour moi, la contemplation, c'est comme un état de vie. Vous voyez, qui naît du don de soi au Seigneur, qui naît de cette quête, mais que aussi un laïc peut vivre aussi, avoir cet appel de chercher le Seigneur toute sa vie et dans tout. C'est pas parce qu'on peut être à la chapelle pendant une heure et être ailleurs et on contemple rien. On va pas mettre l'étiquette contemplatif. Non, pas du tout. L'étiquette contemplatif, c'est si vraiment le Seigneur m'apparaît dans tout ce que je vis. Et là, on rejoint en fait le charisme de la communauté. Le charisme de la communauté, il se définit comme ça, c'est la vie cachée à Nazareth avec la Sainte Famille. Alors, la vie cachée à Nazareth, c'est la vie cachée de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'elle est obscure, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Ça veut dire simplement que sa divinité est cachée dans son humanité. Et donc, il va falloir la chercher. Et c'est ce qu'on fait, nous, dans ce regard contemplatif. On cherche le Seigneur qui est caché dans le rien, dans le quotidien, dans le familier, dans l'ordinaire. Parce que Jésus à Nazareth, il n'a pas une vie cachée. Il est charpentier. D'abord, il a un enfant avec les autres. Il est dans une famille. On le connaît. Il y a les cousins, il y a la famille, il y a les voisins. Il y a un métier, il a des commandes. Il n'est pas caché du tout. C'est sa divinité qui est cachée. Et donc, moi, je vais partir à la recherche de sa divinité. C'est ça qui m'intéresse. Par contre, cette divinité, elle est cachée dans l'humanité. Elle est cachée dans l'ordinaire. Donc, je ne vais pas aller le chercher constamment à la chapelle. Je vais le chercher dans l'ordinaire. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, c'est forcément une vie contemplative. Mais en même temps, ça peut être une vie de travail intense. Ça n'est pas du tout opposé. Et en même temps, c'est aussi une vie apostolique, parce que l'hospitalité est un apostolat. Hein. On va pas sortir du monastère. Saint Benoît dit, parce qu'on a gardé la règle de Saint Benoît, Saint Benoît dit qu'il y a tout, doit tout y avoir dans le monastère. Il n'est pas bon que les moines courent au dehors. Hein. Pas du tout. Mais par contre, ils accueillent énormément de monde. Ils sont aux petits soins, quand on lit la règle de Saint-Benoît, ils sont aux petits soins des personnes qu'ils accueillent. Et là, l'apostolat, c'est pas la peine d'aller... Moi, je suis infirmière à la base. J'ai pas besoin d'aller à l'hôpital travailler, ou je serais peut-être même pas apôtre. Qui sait? Par contre, ici, en tant que, portant l'étiquette déjà de consacré, ça dit quelque chose. Vous voyez? Je sais pas si j'ai bien répondu à la question.
Vous disiez... On cherche le Seigneur dans toutes les petites choses.
Oui.
Vous le trouvez à chaque fois?
Mais parce que non, parce que je suis pas toujours attentive. Et c'est ça l'état de péché. C'est ça l'état de péché. C'est l'oubli de Dieu quelque part. Vous voyez, c'est la source, moi je crois, de tout péché. C'est ne pas vivre toujours en sa présence. C'est se laisser distraire par un tas de choses qui me préoccupent. Et là, je rejoins l'esprit du monde. En fait, je me laisse accaparer par un tas de choses qui sont nécessaires souvent, mais je peux me...
Vous
perdre.
Pensez à quoi quand vous dites ça?
Eh bien, tout le côté matériel. Par exemple, nous, étant donné qu'on vit de notre travail, de notre production, il y a toujours ce souci de commercialisation. Il y a toujours ce souci. Est-ce que on a fait un bon marché? Est-ce que, mince, est-ce que le fromage n'est pas raté aujourd'hui? Est-ce que ça, parce que ça arrive aussi. C'est se laisser gagner, en fait, parce que c'est des choses importantes, hein, mais par ce stress. Et alors, tu lâches pas là? Lâche. Et cherche le Seigneur dans ce lâcher aussi. Abandonne-toi. Et il est là. Est-ce que c'est vraiment grave que tu n'aies pas fait un bon marché? Est-ce que je ne suis pas là? C'est ça ce que le Seigneur nous dit à Nazareth. Il est là au milieu d'une famille, dans un village, avec un tas de gens autour, et il est là pour dire que la présence de Dieu, elle est dans l'humain, dans l'humanité, dans ce que vivent les gens. Et donc moi, si je me laisse distraire par des préoccupations matérielles, etc., c'est comme s'il n'était pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis ailleurs.
Mais c'est pas facile,
non,
parce
pas facile.
Que vous avez quand même... Vous devez vivre.
Et oui, mais tout à fait. Mais c'est aussi, c'est partie du combat spirituel quand même. On doit gérer. On doit être de bons gérants, c'est dans l'Évangile. Hein, de bons gérants, parce que rien n'est à nous. Et donc, on doit bien gérer les biens du Seigneur, vraiment. Et donc, on doit faire ce qu'il faut. Mais on peut se perdre dans les préoccupations matérielles. On peut se perdre. On peut n'être que là-dedans. Vous voyez, être à l'adoration et puis faire sa liste de toutes les choses auxquelles on doit penser, par exemple. Ou les menus de la semaine, je ne sais pas. Vous voyez, hein. Donc, ça fait partie du combat spirituel de la vie monastique, hein, d'être en quête de Dieu, de ne pas être dans l'oubli de Dieu. Même si je dois penser à toutes ces choses matérielles, jamais sans lui. C'est ça que je veux dire. Jamais sans lui. Mais c'est pas vrai. Je suis souvent sans lui, malheureusement. Et donc, il faut toujours reprendre.
C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Passez une très belle journée à l'écoute de Radio Présence.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Ou par mail à contact@radioprésence.com.